Si on veut comprendre les immenses crises de croissance de nos villes modernes, le réflexe naturel, c'est souvent de se tourner vers des gros rapports d'urbanisme ou des analyses sociologiques hyper pointues.
Ouais, c'est clair. On regarde toujours les statistiques globales en premier.
Exactement. Mais en préparant cette plongée dans nos sources d'aujourd'hui, une idée assez fascinante a émergé. Et si le microscope le plus précis pour observer les mutations de notre société, c'était tout simplement un petit bulletin de quartier?
Bah, c'est un changement de perspective redoutable, en fait. Parce que les grandes tendances mondiales, elles finissent toujours par se heurter à la réalité du trottoir, tu vois. Les vrais conflits, ils se jouent au coin de la rue.
Mais carrément. Et notre microscope du jour, c'est un journal qui s'appelle Le Pont Neuf. C'est le numéro 56, qui date de décembre 2025. C'est un document de 16 pages qui donne la voix aux habitants de Rennes, plus précisément des quartiers Clunet, Arsenal-Redon et La Courrouze.
16 pages, ça paraît court, mais c'est très dense.
Très dense, ouais. Et justement, on s'est donné une vraie mission aujourd'hui. On va faire un résumé complet, rubrique par rubrique, page par page. L'idée, c'est de n'oublier aucune information importante. On va juste éliminer le publicité pour aller à l'essentiel. Et on terminera par l'agenda détaillé du quartier. Le tout en restant professionnel, bien sûr.
Je suis prêt. Et on va voir que la structure même du bulletin révèle les priorités de cette communauté, en fait. Dès les pages 1 et 2, c'est flagrant.
Ah ouais, la page 1, c'est l'édito. Le journal fête ses 21 ans d'existence et ils annoncent une nouvelle aventure digitale. Enfin, ils créent un site web, une page Facebook, un compte Instagram.
Mais avec une nuance très importante.
Ouais, ils martèlent que le papier reste au cœur de leur démarche. Ils sont très attachés au toucher, au fait de mettre le journal dans la boîte aux lettres. Je me suis dit, en 2025, c'est une forme de résistance, non?
C'est complètement ça. Le papier s'impose dans l'espace physique, tu vois. Le numérique, il faut faire l'effort d'y aller. Le papier, il te dit que tu fais partie du quartier juste parce que tu as une boîte aux lettres.
Et cet espace physique, il est au centre d'une énorme lutte, page 2. On y découvre l'association L'International des Voisins. D'ailleurs, j'adore le nom, c'est un hommage à Eugène Potier.
Très belle référence historique, hein.
Ils se sont montés à la porte de Clunet parce qu'un promoteur immobilier veut construire une tour de 15 étages. Alors que, historiquement, le maximum là-bas, c'est 5 étages.
Et c'est là qu'on touche au conflit classique de l'urbanisme. Les habitants ont peur de la perte de luminosité, de la saturation du trafic. Ils demandent ce qu'ils appellent un urbanisme concerté.
C'est ça, ils veulent avoir leur mot à dire.
Exactement. Construire 15 étages au milieu d'immeubles de 5, ça détruit l'échelle humaine. Tu perds la connexion avec le sol, la rue.
Et le contraste dans le journal est génial. Parce que juste à côté de cette lutte contre la tour, il parle du grand succès de la soirée Ciné Châtaigne. C'est un événement organisé autour de l'architecte local Georges Maïols. Donc, d'un côté, ils rejettent la modernité verticale et de l'autre, ils mangent des marrons pour célébrer leur patrimoine architectural.
Ça prouve qu'ils ne sont pas contre l'architecture. Ils veulent juste intégrer le futur sans écraser leur passé. Ils veulent préserver leur identité.
En parlant d'identité, les pages 3 et 4 sont incroyables. On y comprend que le quartier, c'est pas juste des briques, c'est des figures locales. J'ai été super touchée par le portrait de Fatima Legalzal.
Ah oui, la chorégraphe. Son parcours est fascinant.
Franco-algérienne, arrivée à Rennes dans les années 90 en tant qu'autodidacte, elle a fondé les associations Bagolofo en 96, puis Dounia en 2005. Son but, c'est vraiment de transmettre un patrimoine. Et il y a cette citation qu'elle utilise, adaptée d'Amadou Ampateba, « Un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît ».
Et le journal montre bien qu'elle met ça en pratique. En 2024, elle a monté un projet avec l'asso Dida, qui s'occupe de migrants. Elle utilise le chant et la danse pour recréer du lien.
Ouais, la disparition d'une bibliothèque humaine, la communauté vient de la vivre. Toujours page 3, il y a un hommage à Nicole Jandeka, qui est décédée d'un AVC.
Une vraie figure de quartier, comme on n'en fait plus beaucoup.
Mais oui, avec sa voix rauque, son déambulateur, ses cache-oreilles rouges. Elle était au Secours catholique, elle passait son temps à rassembler les gens au kebab du coin.
Le bulletin de quartier agit vraiment comme une sauvegarde pour cette mémoire. Si on ne l'écrit pas, l'histoire de Nicole disparaît avec elle.
Et cette transmission, elle se fait aussi vers les jeunes. Page 4, on parle de l'événement biennal Les Petits Bouquineurs. L'invitée pour 2025, c'est l'illustratrice Jeanne Macagne. Il y a une expo prévue à l'Antipode et un spectacle Alphée Aurel le 28 mars.
Ce qui est intéressant là-dedans, c'est la mémoire des adolescents, en fait.
Ah oui, le témoignage des trois jeunes filles de 15 ans, Louise, Chloé et Mathilde. Elles se souviennent avec une nostalgie folle de la visite d'Aurélie Gulliéret quand elles étaient en maternelle. C'est fou l'impact que ça a.
L'irrigation culturelle de proximité fonctionne sur le très long terme. Et c'est pareil pour les infrastructures douces, d'ailleurs.
Tu parles du chemin de halage.
Toujours page 4, ils annoncent sa réouverture entre l'écluse du Moulin du Comte et le pont de la voie ferrée. Ça a pris 6 mois de travaux après les crues de janvier. Et ils ont mis un panneau trop drôle. « Ici, on roule cool », avec un pigeon en trottinette.
C'est une bonne transition. Parce qu'une fois qu'on a vu cet attachement au passé et à la nature, on arrive aux pages 5 à 8. Et là, c'est le choc démographique. Ah ben, la transition est brutale. On attaque les grands chantiers. Pages 5 et 6, c'est le collège Clunet. Le nouveau principal, Pascal Berthelot, arrive après 18 ans en région parisienne. Et il a un défi monstrueux.
Il doit gérer l'amélioration de l'image du collège et l'égalité des chances. Tout ça au milieu d'un chantier titanesque.
Exactement. Ils démolissent les bâtiments de 1968. La phase 1, le bâtiment d'enseignement rue André Récipon, c'est pour janvier 2027. Et la phase 2, pour le self et le personnel, c'est au printemps 2028. Et pourquoi tout ça? Parce qu'ils doivent passer de 410 élèves à 600 ou 700.
Pour absorber tous les nouveaux habitants de la Courrouze, la démographie impose son rythme.
Et justement, l'explosion immobilière, on la voit pages 7 et 8 avec le secteur Guinness. C'est raconté d'une manière super originelle, du point de vue de la petite maison de briques, un ancien pavillon de chasse du 19e siècle.
C'est un procédé narratif très malin pour parler de choses assez arides.
Ouais.
Elle raconte que de 2020 à 2025, il y a eu 494 logements construits par Archipel Habitat, Néotois, Espacil et Quéredès. C'est un nouveau village de 1000 habitants, surtout des trentenaires, comme Julien et Lucille dans la tour Drémouel.
Il y a aussi cette anecdote sur Mila et sa grand-mère, qui montre que cette densification permet parfois un rapprochement familial.
C'est vrai. L'article dit que l'insonorisation est top. Mais, et là on arrive au gros paradoxe, le constat est amer. Il manque des structures pour les seniors, le parc pour les enfants n'est prévu que pour la fin de l'année et il n'y a aucun lieu de vie comme un bar associatif.
C'est le problème classique. On sait construire 500 logements hyper performants techniquement en un temps record, mais on oublie d'intégrer la place du village. L'infrastructure est là, mais le tissu social n'a pas d'espace pour se créer. Franchement, je suis restée bloquée là-dessus. Comment on peut oublier un parc pour enfants quand on loge 1000 personnes ?
Bah, c'est l'urbanisme sur plan, vu de haut. On rentre des cases et on oublie l'usage réel.
Bon, une fois que les murs sont là, comment on gère le quotidien? C'est le sujet des pages 9 à 11. Page 9, on a un beau projet esthétique, 4 mosaïques appelées le Grand Bleu, réalisées par l'artiste Funda Tokash de Maskimart.
Avec une démarche très participative, il me semble.
Complètement. Elle a récupéré la vaisselle cassée des habitants pour créer des motifs marins. Il y a une référence à la vague de Hokusai, une méduse, une tortue. C'est de l'embellissement collectif.
Ça rejoint la démarche sociale du dispositif Sortir de Rennes Métropole, qui est mentionné juste après.
Oui, le pass sortir, avec des tarifs hyper accessibles. Le cinéma ou la patinoire à 3,20 euros, plus des aides financières pour les activités sous condition de ressources. C'est vital pour inclure tout le monde.
Et à côté de cette inclusion, il faut gérer les frictions. Et c'est là qu'on tombe sur l'initiative de la BAI.
Ah, les pages 10 et 11. C'est le reportage en immersion avec Sylvain et Olivia de la Brigade anti-incivilité créée début 2024. C'est lunaire cette histoire.
Lunaire, c'est le mot.
Le journaliste l'est su le 18 juin. Il se déplace à vélo électrique pour lutter contre les dépôts sauvages. En quelques heures, il tombe sur un canapé carrément démembré et un frigo abandonné, même pas dégivré. L'amende est de 135 euros.
Ce qui est fascinant sur le plan psychologique, c'est la réception de ces agents par les citoyens.
Ouais, ils sont super bien accueillis, contrairement aux anciens ASVP qui collaient des prunes pour le stationnement.
Parce que leur mission a changé de sens, en fait. Les ASVP, on les voyait comme des percepteurs de taxes. La BIL, elle, défend l'intérêt général. Le mec qui laisse son frigo pourri sur le trottoir, il agresse tout le quartier. Donc, la brigade est perçue comme un service de protection de l'espace commun.
Mais une protection qui va loin. L'article glisse un détail qui fait froid dans le dos. Sylvain et Olivia sont sympas, ils roulent à vélo, ils s'occupent des ordures, mais ils portent des gilets pare-balles.
Et c'est là tout le contraste?
C'est fou. Ils portent des gilets pare-balles parce qu'ils évoluent dans un quartier où il y a des dealers armés. On demande à des agents écolos de faire face à une criminalité lourde.
C'est la réalité de beaucoup de mutations urbaines, tu sais. Des initiatives citoyennes douces qui cohabitent avec une réalité du terrain parfois très violente.
Bah ça secoue un peu. Heureusement, la fin du journal, les pages 12 à 15, remet beaucoup d'espoir avec l'éducation et la solidarité.
L'éducation, c'est la base du vivre ensemble.
Complètement. Page 12, on suit les sorties scolaires des 6A et 6C. Ils sont allés à la Gacilly pour l'expo photo So British, avec des photographes comme Martin Parr, Peter Dench, Josh Edgoes et des portraits d'Elton John et des Beatles.
Belle ouverture culturelle.
Et ensuite, gros contraste, ils vont à Saint-Just sur un site préhistorique, ils font du tir au propulseur sur une cible en forme de sanglier, et le clou du spectacle, ils doivent déplacer tous ensemble un bloc de pierre de 2 tonnes.
Ah, ça, c'est la métaphore parfaite de l'effort collectif.
C'est net. Si tu coopères pas, la pierre ne bouge pas. Et cet esprit d'aventure, on le retrouve page 13 avec Abid et Josué. Deux jeunes de 18 ans qui sont partis 2 mois en camping sauvage dans les montagnes, près de la frontière suisse et de Grenoble.
Un besoin de se confronter au réel, loin de la ville.
Exactement. Et avec une sobriété absolue. Ils ont mangé des nouilles instantanées pendant des semaines, ils parlent de l'importance de l'audace. Et petit détail marrant, ils ont été pas mal inspirés par la musique du groupe de rap PNL.
Comme quoi la culture urbaine peut pousser à l'exploration de la nature.
Ouais, l'audace prend plein de formes. Page 14, on a droit à un petit cours d'histoire locale sur le collège de la Tour d'Auvergne.
Qui est une institution dans le coin.
Ah oui, créée par les frères des écoles chrétiennes, la congrégation de Jean-Baptiste de La Salle, qui date de 1680. Le journal rappelle des chiffres dingues. En 1904, il gérait 420 élèves avec seulement 9 frères. Et le bâtiment a survécu au bombardement de juin 1944, avant de fusionner avec Saint-Gabriel dans les années 80.
C'est marrant de voir cette continuité. D'un côté, on apprend l'histoire d'un collège centenaire et juste après, on parle de la fracture numérique d'aujourd'hui.
Oui, page 15, la permanence numérique, c'est gratuit, c'est au CPB Clunay et c'est animé par Guillaume Serrault pour aider les gens avec Internet et leurs démarches administratives.
La solidarité, très pragmatique.
Et ça continue avec les 10 ans du Repère Café des Trois Maisons. Ils fêtent ça les 25 et 26 octobre 2025. Il y aura une conférence de Catherine Lyon sur l'empreinte carbone et un grand challenge amical entre 5 Repères Café d'Ille-et-Vilaine.
Le parallèle est amusant. Au début, on a des collégiens qui s'unissent pour tirer un bloc de pierre préhistorique. Et là, on a des bénévoles qui collaborent pour démonter des micro-ondes du 21e siècle.
Mais oui, la technologie change, mais le besoin de collaborer reste exactement le même. Et cette collaboration, elle rythme toute l'année. C'est le moment de remplir notre mission jusqu'au bout, page 16, avec l'agenda détaillé du quartier.
L'agenda, c'est vraiment le pouls de la vie locale.
Alors on y va. Pour décembre 2025, mardi 2, on a Science en musique à l'Antipode.
Et le lendemain, mercredi 3, toujours à l'Antipode, mais à la cafétée, il y a une fabrication d'instruments par des bénévoles.
Le vendredi 12, Assemblée générale du BAM, suivie d'un repas.
Le week-end du samedi 13 et dimanche 14, c'est le marché de Noël artistique organisé par Maskim Art et Aminti au BAM.
Sachant que le samedi 13, il y a aussi une rencontre autour du jeu vidéo à l'Antipode.
Et pour finir décembre, le mardi 16, des festivités de Noël avec de la déco végétale par Marion Dufaoué.
On passe à janvier 2026, vendredi 9, soirée Dube au BAM.
Le mardi 20, projection du film de Paul Howe à Maison Héloïse.
Le vendredi 23, on retourne au BAM pour une soirée drag show en soutien aux musiciennes.
Mardi 27, le forum quiz à l'Antipode.
Et pour clore janvier, le vendredi 30, le Repère Café des Familles aux Trois Maisons.
Ça ne s'arrête jamais. Pour février 2026, on note un stage surjeteuse à Maison Marion Dufaoué, qui court d'ailleurs du 7 janvier au 4 février.
Le mercredi 4 février, customisation de t-shirts à l'Antipode.
Le Repère Café des Familles revient aux Trois Maisons le mardi 10 et le dimanche 15.
Et enfin, le vendredi 20 février, un atelier « Je pimpe mon jean » avec de la couture et de la broderie. Voilà, on a fait le tour exhaustif sans oublier une seule date.
Mission accomplie et avec rigueur.
Franchement, en refermant ce journal, on se rend compte de la densité d'action sur un si petit territoire.
Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on s'arrête en fait. On a souvent tendance à voir une ville comme une accumulation de béton, d'infrastructures, de routes. Mais après avoir épluché ces 16 pages, je suis convaincu qu'on devrait considérer la ville comme un organisme vivant. L'infrastructure, ce n'est que le squelette. La véritable chair du quartier, elle est tissée par ses centaines d'associations, ses réparateurs de grille-pain, ses agents à vélo, ses danseuses passionnées. C'est eux qui transforment le béton en véritable lieu de vie.
C'est super bien dit. Ça donne un tout autre sens à ce petit journal glissé dans une boîte aux lettres. Un immense merci à ceux qui nous écoutent d'avoir suivi cette autopsie minutieuse d'un bulletin de quartier. La prochaine fois que vous croiserez un petit journal local, vous saurez qu'il contient sûrement les clés pour comprendre notre société entière. À très vite pour une prochaine analyse approfondie.